Le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va parler du commerce de la surveillance. L'alliance Intellexa, qui est le réseau européen d'entreprises de surveillance, dont fait partie une entreprise française, aurait contourné les réglementations de l'Union européenne pour vendre ses produits à des États autoritaires. Donc, on va parler de l'une des révélations de l'enquête Predator Files, qui a été menée par le réseau de médias européens d'investigation collaborative avec l'assistante technique d'Amnesty International. C'est une grande enquête qui révèle les défaillances colossales de la réglementation du commerce de la surveillance. Après un an d'enquête, les journalistes du réseau European Investigative Collaboration, donc EIC, révèle comment les dirigeants d'entreprise auraient vendu le logiciel de surveillance extrêmement invasif appelé Predator à plus de 25 pays. Certains l'auraient utilisé pour porter atteinte aux droits humains, à la liberté de presse et aux mouvements sociaux. L'enquête montre comment les sociétés qui commercialisent Predator fonctionnent librement dans l'ombre sans être contrôlées ou contraintes de rendre des comptes. Extrêmement puissant, le logiciel Predator est l'un des produits phares de l'alliance Intellexa, dont fait partie l'entreprise française Nexa Technologies. Hautement invasif, le logiciel Predator serait, selon l'enquête de EIC, vendu et utilisé sans aucun contrôle. L'enquête des Predator Files, menée par 15 médias, révèle aussi l'ampleur tentaculaire du secteur de la surveillance numérique à l'échelle mondiale. Mediapart, l'un des médias fondateurs du réseau d'enquête EIC, révèle au début du mois, le jeudi 5 octobre, le premier volet des Predator Files en focus sur la France. Donc vous pouvez retrouver cette enquête sur le site de Mediapart et aussi sur le site d'Amnesty International. Les révélations des médias s'étaleront comme ça voilà, durant toute la semaine. Les experts d'Amnesty International via notre Security Lab ont apporté leur expertise également à cette enquête en analysant les documents techniques fournis par les journalistes. En parallèle de l'enquête des journalistes, le Security Lab d'Amnesty International a mené de façon indépendante ses propres recherches dans le cadre des Predator Files, dont les résultats ont été rendus publics le 9 octobre dans un rapport intitulé « Dans les mailles de Predator ». Alors, pour commencer, donc c'est EIC qui est un réseau de journalistes d'investigation réunissant des médias européens, dont Mediapart, comme je l'ai dit, Der Spiegel en Allemagne, Le Soir en Belgique, El Mundo en Espagne. Et l'EIC a été créé en 2016. Et c'était déjà à l'origine de plusieurs enquêtes internationales, dont les armes de la terreur, les football leaks. La dernière enquête, c'est donc Predator Files, et c'est le résultat d'un an d'investigation. Amnesty International a un bureau spécifique qui est dédié au sujet des technologies et des droits humains, qui est Amnesty Tech. On a intelligence artificielle, GAFAM, surveillance numérique ciblée. Plusieurs équipes composent les bureaux d'Amnesty Tech et c'est de ça qu'elles s'occupent. Et parmi elles, il y a une équipe qui est spécialisée sur les attaques de logiciels espions et c'est le Security Lab. Ce Security Lab, il a été créé en 2019. L'équipe, elle est basée à Berlin et elle est constituée de hackers et de hackeuses et aussi des codeurs. Et c'est des personnes qui ont expertisé notamment les téléphones infectés par Pegasus. Si vous voulez plus d'informations sur Pegasus, il y a une enquête qui a été faite en 2001 qui est disponible toujours sur notre site. Et dans le cadre de l'enquête des journalistes Predator Files en 2023, le Security Lab d'Amnesty a été à nouveau contacté pour expertiser des documents techniques. Et donc les experts qui sont basés à Berlin ont pu vérifier les spécifications des produits de surveillance développés, exploités et commercialisés par l'alliance Intellexa. L'enquête des Predator Files met en évidence qu'il y a des produits de surveillance extrêmement invasifs qui sont vendus à une échelle industrielle et qui fonctionnent librement dans l'opacité la plus totale avec très très peu de contrôle, pour ne pas dire aucun. Le groupe européen de surveillance Intellexa dit être une entreprise basée dans l'Union européenne et soumise à la réglementation européenne de fait. Mais comme le montre l'enquête des Predator Files, les instances de réglementation européenne ne sont pas en mesure ou n'ont pas la volonté de contrôler et prévenir les atteintes aux droits humains qui sont liées à l'exportation de logiciels espions. Les entreprises de technologies de surveillance basées au sein de l'Union européenne sont en principe soumises à des contrôles au titre du règlement européen sur les biens à double usage. Donc c'est un principe qui vise à empêcher les atteintes aux droits humains en établissant des contrôles à l'exportation pour les technologies de surveillance exportées par l'Union européenne à des pays tiers. La solution, c'est pas forcément l'interdiction de ces technologies. L'enquête Predator Files est tout aussi accablante que le projet Pegasus, parce que depuis, très peu de choses ont changé. Des entreprises mercenaires de surveillance comme l'Alliance Intellexa continuent de vendre des marchandises et d'engranger des profits qui se chiffrent en millions aux dépens des droits humains et presque en toute impunité. Les États de l'Union européenne doivent cesser d'esquiver leurs responsabilités, doivent commencer à contrôler ces entreprises. Et c'est plutôt ça qu'on demande, c'est vraiment que les responsabilités soient prises et qu'il y ait de véritables contrôles, sans en aller jusqu'à interdire ce genre de technologie. Donc pour mettre au pas un commerce aussi opaque que fructueux, on a deux demandes principales. La mise en place d'un moratoire sur la vente, le transfert, l'exportation et l'utilisation de logiciels espions jusqu'à ce qu'un cadre respectueux des droits humains soit mis en place, et l'interdiction des logiciels espions, seulement les plus intrusifs, évidemment. Parce que bon, il y a quand même des logiciels tels que Pegasus ou Predator qui sont des logiciels espions qui ne peuvent pas être juste contrôlés de façon indépendante et qui sont vraiment dangereux. Leurs fonctionnalités ne peuvent pas être limitées, ils sont incompatibles en fait avec le respect des droits humains et donc on demande effectivement leur interdiction. Les atteintes aux droits humains sont une caractéristique de ce secteur et ce n'est pas le résultat d'un dysfonctionnement. C'est pour ça qu'on se mobilise pour porter ces demandes essentielles pour nos droits, car à ce stade, au vu de l'inefficacité de la réglementation européenne, les logiciels espions continueront de faire des ravages. Et si vous voulez en apprendre plus sur ces enquêtes, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour découvrir l'enquête menée par Security Lab et par Mediapart. Vous avez certainement entendu en France parler de l'abaya et de tout plein d'autres vêtements qui pourraient poser problème dans les écoles publiques. L'interdiction de l'abaya dans les écoles publiques a monopolisé la rentrée scolaire en France. Pendant tout le mois de septembre, vous avez peut-être en entendu parler. Le débat est houleux, polarisé, presque impossible. Et après un petit temps d'analyse juridique, Amnesty International revient sur cette mesure au contour un peu flou, qui ne correspond pas au droit international et risque d'exacerber les discriminations. Le 27 août 2023, à quelques jours à peine de la rentrée scolaire, le ministre français de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonçait lors d'une interview télévisée à une heure de grande écoute que, je cite, « l'abaya ne pouvait plus être portée à l'école ». Le 31 août, le bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale, adressé aux directeurs et directrices d'établissements scolaires, confirmait l'interdiction du port de l'abaya et du kami dans toutes les écoles publiques. En quelques jours à peine, l'abaya est devenu le sujet numéro 1 de la rentrée scolaire en France, reléguant au second rang d'autres questions pourtant essentielles comme le manque de moyens, de professeurs ou le harcèlement scolaire. Et les débats autour de son interdiction ont ravivé des discours racistes et sexistes à l'œuvre en France depuis des décennies. Alors nous, notre position, elle est assez simple. Chaque jour, nous, on se bat pour que les personnes partout dans le monde soient pleinement libres de choisir ce qu'elles souhaitent ou non porter. Notre unique boussole, c'est le droit international relatif aux droits humains. En Iran, par exemple, on lutte pour le droit des femmes et contre le port obligatoire du voile. On dénonce donc les crimes commis par les talibans contre les femmes et les filles en Afghanistan et on œuvre pour que la France leur offre un refuge. On soutient également les défenseurs et les défenseuses des droits en Arabie Saoudite. Partout, en fait, on défend les libertés des femmes et des filles et on combat les codes vestimentaires obligatoires. Et c'est donc au nom de ce même droit des femmes à choisir et à être libres que dans d'autres pays et dans d'autres contextes, plein de contextes différents, Amnesty International désapprouve des réglementations mises en place par des États pour interdire le port de certains vêtements ou certains types de vêtements. Donc on demande aujourd'hui aux autorités françaises l'abrogation de l'interdiction de l'abaya dans les écoles publiques. Ce que nous dénonçons, c'est que cette interdiction limite la liberté d'expression et de religion, particulièrement des femmes et des filles musulmanes, ainsi que leur droit à ne pas être discriminées à l'école en fonction de leur race, de leur religion ou de leur genre. Cette interdiction, par son étendue sur tout le territoire et son imprécision quant à savoir ce que sont réellement une abaya et un kami, mais aussi et surtout par sa mise en place dans un contexte de discours de personnalités politiques discriminatoires à l'encontre des musulmans et des musulmanes, ça nous fait craindre de graves discriminations. L'État ne démontre pas en quoi l'interdiction de l'abaya et du kami est nécessaire pour protéger les enfants ou pour protéger la sécurité nationale. Le premier problème, c'est que l'État ne démontre pas en quoi l'interdiction de l'abaya et du kami, c'est vraiment nécessaire pour protéger les enfants et la sécurité nationale. En fait, toute restriction au droit à la liberté d'expression et de religion ou de conviction doit répondre à un critère rigoureux en trois volets. Elle doit être prescrite par la loi, elle doit viser un objectif légitime spécifique autorisé par le droit international, à savoir la protection de la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique, la morale ou la protection des droits d'autrui. Et enfin, elle doit être manifestement nécessaire et proportionnée à cette fin. En fait, il incombe à l'État, lorsqu'il adopte et met en œuvre des restrictions à ses droits, de fournir des preuves nécessaires de leur légitimité, de leur nécessité et de leur proportionnalité, et d'évaluer aussi l'impact discriminatoire que ces restrictions peuvent avoir sur des groupes spécifiques. Les autorités françaises ont jusqu'à présent omis de le faire en ce qui concerne notamment l'interdiction de l'abaya et du kami. Le problème, c'est que c'est aussi une discrimination sexiste qui est déjà à l'œuvre. Les codes vestimentaires imposés aux femmes et aux filles, y compris le port obligatoire de symboles et de vêtements spécifiques ou l'interdiction de les porter, entravent leur liberté. En fait, ça reflète un désir de contrôler le corps et ça nie complètement leur autonomie personnelle. Au cours des 20 dernières années, les autorités françaises se sont engagées dans une continuité de la législation et de réglementation des vêtements des filles et des femmes musulmanes. C'est une véritable course législative qui est alimentée par des préjugés et qui ancre une discrimination sexiste, in fine. Alors que l'interdiction dans les écoles publiques est aussi censée concerner les vêtements pour hommes, donc les kamis, le discours public, c'est-à-dire les déclarations des responsables gouvernementaux et la couverture médiatique du sujet, tout ça, ça va se concentrer sur l'abaya. Sur le terrain, c'est le même constat. À ce jour, les médias n'ont rapporté que des cas de filles à qui l'on a demandé d'enlever leur abaya. On n'a eu aucune connaissance de cas de garçons qui sont visés par cette interdiction. Et puis enfin, il y a aussi un véritable risque d'atteinte au droit à l'éducation. Le 5 septembre 2023, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé que 298 élèves s'étaient présentés en abaya et que 67 d'entre elles avaient refusé de l'enlever. Le Premier ministre a précisé que ces élèves avaient été renvoyés chez elles. Refuser à des élèves d'assister à des cours constitue une violation de leur droit à l'éducation. Et la France doit au contraire veiller à ce que les élèves aient accès à l'éducation sans subir de discrimination, en application d'ailleurs de la Convention internationale des droits de l'enfant. Des centaines d'élèves en France ont déjà subi les conséquences de cette interdiction et Amnesty International craint que cette situation ne fasse que s'aggraver avec le temps. Et c'est aussi, évidemment, un risque de discrimination aux faciès exacerbé. Les autorités françaises ne parviennent pas à donner une définition claire de ce que sont l'abaya et le kami. Le bulletin officiel du ministère français de l'Éducation nationale se contente de mentionner que ces vêtements, je cite, « manifestent ostensiblement une apparence religieuse en milieu scolaire et ne peut être tolérée ». Autrement dit, ces vêtements, sans être clairement définis, sont supposés religieux. Alors l'abaya et le kamis, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des mots arabes, d'accord, qui désignent des vêtements traditionnellement portés dans les pays du Maghreb ou du Golfe, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest. L'abaya, c'est un vêtement féminin. Ça désigne un vêtement assez ample, essentiellement une robe qui descend jusqu'aux poignets et aux chevilles. Et le mot abaya peut également désigner n'importe quel type de robe ou de manteau, en fait. Et le kami, lui, désigne un vêtement plutôt masculin, une longue tunique qui descend un petit peu au-dessus des chevilles et au niveau des mollets à peu près. Le mot kami peut également désigner une chemise. Et c'est ce manque de clarté et cette imprécision quant à savoir ce que c'est que réellement l'abaya et le kami qui risque de conduire à des pratiques discriminatoires et arbitraires de la part des personnes qui vont devoir appliquer ce texte ou faire appliquer ce texte. En effet, dans cette zone grise, la responsabilité est laissée aux établissements de décider au cas par cas de ce qui est un abaya ou un kami sans réelle base objective. Le risque, c'est que l'interdiction soit fondée finalement sur la base du nom de la personne, de la couleur de peau ou de l'apparence, voire présumée en fait, de la communauté musulmane de l'élève, créant ainsi une discrimination. Et les médias signalent déjà des cas d'abus. C'est un débat qui revient très très souvent dans les médias publics et qui bien souvent cache d'autres problèmes qui sont plus graves dans l'actualité, notamment, comme je disais tout à l'heure, les problèmes liés à l'éducation aujourd'hui, au manque de budget, au manque de professeurs, parce qu'à cette rentrée, on n'a toujours pas le bon nombre de professeurs ni dans les écoles, ni dans les collèges, ni dans les lycées. Et c'est un problème qui semble être un petit peu plus grave et auquel il faut s'intéresser beaucoup plus rapidement que à ce que portent les élèves au sein de l'école. Et aujourd'hui en plus, ça risque de faire perdre certaines heures de cours à certains et certaines élèves. Donc si cette enquête vous intéresse et si ce point de vue vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site amnestyinternational.fr pour en apprendre un petit peu plus sur ce que c'est que la liberté du corps, qui comprend également la liberté donc, de s'habiller comme on veut. Et pourquoi est-ce que Amnesty International réellement défend le droit à s'habiller comme on veut, que ce soit être contre le voile dans certains pays où la dictature islamiste est assez forte, ou que ce soit en France où on devrait pouvoir s'habiller de la manière qu'on veut sans avoir à craindre de voir ses droits entravés, notamment le droit à l'éducation. Moi je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur Radio FM+. Thank you.